Le musée national estonien a été notre rêve pendant 100 ans. Et enfin, ce rêve s'est réalisé. C'est vraiment une collection rare et exhaustive qui représente l'identité du peuple estonien.
L'idée principale était de permettre aux Estoniens de regarder avec confiance l'avenir, même avec le souvenir négatif de l'occupation soviétique.
On nous considère un peu occupants, mais ils oublient toujours que la population russophone a aussi souffert pendant les années soviétiques. Il y a vraiment des tragédies derrière chaque famille.
Avec ses 1500 lacs et ses forêts qui couvrent presque la moitié du territoire, c'est un tout petit pays qui n'en est pas moins exceptionnel à plus d'un titre. L'Estonie a porté au pouvoir en mars 2014 et confirmé depuis le plus jeune Premier ministre de toute l'Union européenne, le libéral Taavi Rõivas, âgé de 35 ans seulement. Le pays a aussi surmonté assez brillamment la crise de 2008 après une récession très sévère. Pourtant, le PIB avait chuté de 14% en 2009. L'Estonie affiche aujourd'hui une belle croissance et le taux d'endettement le plus faible de toute l'Europe, à peine 10% du PIB. Les finances y sont donc en ordre et le chômage faible. Tallinn a aussi inventé il y a 2 ans le concept d'e-citoyen, une carte qui ne permet pas de voter certes, mais qui permet d'ouvrir des comptes en banque, de créer des entreprises, de bénéficier des services estoniens sans pratiquement mettre un pied sur le territoire. Plusieurs milliers de citoyens du monde entier en profitent. Mais l'Estonie est aussi un pays traumatisé par son histoire. Elle fut avalée par le géant soviétique en 1940 et l'URSS organisa ensuite la déportation d'une grande partie de la population. L'annexion de la Crimée a donc ravivé il y a 2 ans la peur de ce pays balte, indépendant depuis 1991 et intégré à l'Union européenne depuis 12 ans, soulagé de voir des troupes de l'OTAN s'installer à sa frontière. La minorité russophone représente un tiers de la population estonienne, ce qui pose aussi des problèmes d'intégration. Voilà pourquoi il a fallu tant d'années aux Estoniens pour se doter d'un musée historique qui ouvre tout juste de ses portes. Estonie, un musée pour guérir du passé, c'est un reportage signé Bruno Caden. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes ce soir en compagnie de Nicolas Escache, qui est agrégé en géographie. Bonsoir.
Bonjour.
Et vous êtes aussi enseignant-chercheur à Sciences Po Rennes. Et nous sommes avec Katerina Keza. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes docteur aussi chargé des relations internationales, d'enseignement pardon, à l'INALCO. Je dis vraiment n'importe quoi. Donc chargé d'enseignement à l'INALCO. Et vous êtes co-organisatrice à l'INALCO aussi du groupe de recherche sur les espaces baltes et votre doctorat porté sur les relations internationales. C'est ce que je voulais dire. Et nous sommes avec Bruno Caden. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Tara.
Vous rentrez d'Estonie où sera inauguré la semaine prochaine le musée national estonien qui revêt une importance capitale pour ce pays. Le pays l'attend depuis des années et il faut dire que le bâtiment se situe dans un lieu symbolique.
Oui, ce musée national estonien accumule les symboles. Déjà, il est situé à Tartu, la capitale intellectuelle de l'Estonie dans le sud du pays. Tartu, c'est tout d'abord une université prestigieuse fondée en 1632 lorsque l'Estonie était sous domination suédoise, une université qui a formé toutes les élites du pays. Ensuite, ce musée est bâti sur un site doublement symbolique à proximité des ruines de l'ancien musée fondé en 1909, mais également, surtout, sur le site d'une ancienne base aérienne soviétique, l'une des plus grandes d'Europe, à l'abandon depuis la chute de l'URSS en 1991. Un musée donc sur les traces d'un passé douloureux, mais également tourné vers l'avenir. Il est immense, d'une architecture magnifique, avec restaurants, salles de conférences, auditorium, centre de recherche, et construit en direction du ciel sur la piste de décollage de l'ancienne base. Et enfin, il est à la pointe des nouvelles technologies, une autre spécialité estonienne.
Votre magazine, Bruno, s'ouvre avec la rencontre d'un des architectes de ce musée, Dan Dorell.
Les projets étaient pour le musée national d'Estonie. Ils voulaient faire un musée qui existait déjà. Ils voulaient un nouveau bâtiment pour en présenter cette nouvelle ère de l'Estonie qui rentre en Europe et avec évidemment un passé assez compliqué avec des occupations de très longue durée. Et donc les concours nous ont tout de suite intrigués parce que les sites étaient très particuliers. Il s'agit d'un endroit à Tartu, c'est la deuxième ville, la ville culturelle d'Estonie, là où il y avait le premier musée national d'Estonie en 1909. Il est né là-bas et il est exactement dans le même site de nouveau musée. Et par tout hasard, le même site avait aussi une base d'aviation soviétique au même endroit. les sujets, l'endroit, toute la situation nous a beaucoup intrigués et on s'est tout de suite mis à rechercher, à étudier sur ces pays pour faire notre proposition.
Tartu est la grande ville intellectuelle et universitaire d'Estonie. Ce n'est donc pas un hasard si c'est ici, dans cette ville où un quart de la population est étudiante, qu'a été installé le nouveau musée national estonien.
Ce musée est un musée national.
Myriam Raabis, responsable des musées au ministère estonien de la Culture.
Il possède les plus rares collections concernant la vie du peuple estonien et des peuples finno-ougriens, ainsi que des minorités vivant en Estonie. C'est vraiment une collection rare et exhaustive qui représente l'identité du peuple estonien. Ce musée est également un important centre de recherche concernant l'identité estonienne. Donc, je dirais que cela représente vraiment une grande affaire, un véritable cadeau pour chacun d'entre nous. Le musée national estonien a été notre rêve pendant 100 ans. Et enfin, ce rêve s'est réalisé. Si vous construisez un nouveau musée, il se doit de représenter la vie contemporaine. Donc ce musée ne parle pas uniquement de notre sombre passé, mais aussi de tout notre passé, qui n'a quand même pas été toujours aussi sombre. Ce musée n'est pas un mémorial, c'est un musée vivant. Il présente les pratiques quotidiennes d'aujourd'hui et la vie contemporaine en Estonie. C'est sur la vie dans le passé et dans le présent en Estonie. Et donc avoir un bâtiment contemporain pour ce projet est simplement la bonne chose à faire.
C'est absolument totalement symbolique.
Tony Lucas, directeur du musée national estonien et ancien ministre de l'éducation.
De venir de totalitarisme, de cette période d'occupation vers l'indépendance démocratique et le sort de notre culture estonienne. Et c'est symbolique parce qu'une nation peut faire des solutions elle-même, peut organiser des choses librement, seulement en période de l'indépendance. Et aucun autre pouvoir peut construire un musée national. Et je crois que la garantie pour faire de grandes choses dans un espace culturel, c'est l'indépendance. Parce que pour notre nation, c'est savoir et connaître les racines historiques, c'est-à-dire patrimoine est une garantie que les Estoniens restent. Et le musée, comme un programme éducatif pour les élèves, pour les jeunes gens, est une institution très importante.
Est-ce que le fait aussi que ce soit Tartu, qui est la capitale intellectuelle et universitaire du pays depuis très longtemps, ça aussi c'est important pour le pays.
Absolument, c'est pas par hasard. Le chercheur de l'université était le premier qui, plus activement, avec les étudiants, commençait collection des exemples du patrimoine, des objets, mais aussi des textes traditionnels, des chansons, etc. C'est beaucoup lié avec les activités de l'université de Tartu, oui.
Les cauchemars du XXe siècle ont hanté la mise en place de ce projet de musée. En particulier le fait de le construire sur une ancienne base aérienne soviétique, l'un des architectes, Tsuyoshi Tane.
The project is
Ce projet était évidemment controversé car nous avions à prendre en compte ce lourd passé historique pour qu'à travers ce musée national, l'Estonie puisse avancer vers son avenir. Donc l'idée était géniale, mais en même temps controversée pour le public estonien. Il y a eu un vrai débat dans le jury du concours, mais également dans l'opinion après l'annonce du projet vainqueur, même si nous l'avions appelé les Chants de la mémoire. Donc l'idée principale était de permettre aux Estoniens de regarder avec confiance l'avenir, même avec le souvenir négatif de l'occupation soviétique. Le tout à travers l'idée de transmettre l'identité estonienne vers l'avenir, et ça a été un grand débat pour savoir si c'était le bon ou le mauvais moyen. La discussion était très intéressante.
Le plus grand traumatisme du peuple estonien remonte au 14 juin 1941, avec la déportation de 10 000 Estoniens en Sibérie par l'armée rouge, conséquence du pacte germano-soviétique. Le député européen Tune Kelam était enfant à cette époque.
Mes parents m'ont emmené en Finlande en 1939, en juillet. Nous y avons passé 2 semaines. Et j'ai fêté mes 3 ans là-bas. Et puis nous sommes rentrés en Estonie. 1 mois plus tard, Hitler et Staline sont devenus amis avec le pacte germano-soviétique et ils ont débuté ensemble la Seconde Guerre mondiale. Car n'oubliez jamais que pour débuter la Seconde Guerre mondiale, il a fallu être 2, pas uniquement Hitler. Mais comme conséquence personnelle de ce pacte germano-soviétique, mon prochain voyage à l'étranger a été reporté d'exactement 1 demi-siècle. Et mon deuxième voyage à l'étranger a été en août 1989. Une fois encore en Finlande, puis au Canada et aux États-Unis pour défendre l'idée de restauration de l'indépendance estonienne. Le principal problème dans tous les anciens pays communistes, c'est que le totalitarisme communiste, qui a causé encore plus de victimes que les nazis, n'a jamais été internationalement jugé, ni moralement, ni politiquement. Donc chaque pays post-communiste a dû se débrouiller tout seul avec son lourd passé. Le problème est, en ce qui concerne l'Union européenne, que chaque nation a sa propre vision de l'histoire européenne. Alors comment comprendre, comment interpréter l'histoire de l'Europe de l'Est ? Quand j'ai été élu pour la première fois au Parlement européen il y a 12 ans, en 2004, ma mauvaise surprise a été l'absence totale d'intérêt de la part des Occidentaux pour les nouveaux membres d'Europe de l'Est. J'ai compris qu'il serait impossible de construire ensemble et en confiance un futur commun sans une compréhension commune de l'histoire de l'Europe. Et nous avons donc, à l'initiative des pays nouveaux membres en 2005, le premier débat sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. C'était alors le Luxembourg qui avait la présidence tournante de l'Union européenne. À cette époque, il était habituel pour les chefs d'État occidentaux de se rendre à Moscou pour le défilé militaire des célébrations de l'armistice du 9 mai. Le lendemain, le Parlement européen a donc eu ce débat et Jean-Claude Juncker, à son retour de Moscou, a déclaré à quel point il était redevable à l'armée rouge d'avoir contribué à la libération du Luxembourg. Un peu plus tard, j'ai eu l'opportunité de lui rappeler qu'il avait eu la chance que l'armée rouge n'ait pas physiquement libéré le Luxembourg, ce qui fait une grande différence.
Même un quart de siècle après la chute de l'URSS, l'idée que l'armée russe pourrait revenir occuper le pays terrifie la population estonienne. Et la guerre en Ukraine a aggravé cette peur, au point de demander à l'OTAN d'installer en permanence des soldats occidentaux en Estonie, dont des Français. Marie-Lise Metz, conseillère OTAN et Union européenne au ministère estonien de la Défense.
Je pense que le sommet de Varsovie, où en fait il faut peut-être faire un pas vers l'arrière, et aussi le sommet de Wales, ont plutôt indiqué à l'Estonie que nous avons eu le bon sentiment. Nous avons toujours répété à nos partenaires occidentaux qu'il ne faut pas faire totalement confiance à la Russie, parce que ce que notre passé nous a montré, on a quelques expériences un peu douloureuses, on travaille sur notre passé, mais en même temps, la Géorgie en 2008, l'Ukraine en 2014, avant ça la Transnistrie en Moldavie, tout cela a montré qu'il ne s'agit pas des actes uniques, mais il s'agit d'une politique réfléchie. Donc pour cela, le sommet de Wales et de Varsovie ont été plutôt une démonstration que nos craintes ont été justifiées et nous sommes aujourd'hui sur la même page avec nos alliés occidentaux ou de l'Est sur le chemin que nous devons prendre pour renforcer l'OTAN et nos propres mesures de défense.
Le fait que la France va envoyer des soldats en Estonie est quelque chose d'important pour la société estonienne, parce que la France est longtemps apparue peut-être comme étant plus favorable à la Russie que pouvaient l'être d'autres pays, en particulier par exemple l'Allemagne ou les pays scandinaves.
Je pense que nous avons fait un très long chemin avec la relation avec la France. Et donc le fait que la France a contribué avec du personnel au centre d'excellence de l'OTAN sur la cyberdéfense, ou maintenant va contribuer au bataillon qui va être formé par le Royaume-Uni, c'est quand même un pas très significatif. Et nous apprécions énormément l'effort de la France, tout en sachant les contraintes humaines et de ressources que la France doit faire face actuellement.
Cette arrivée d'un bataillon 2017, il nécessite une préparation pour l'Estonie.
Oui, au niveau du gouvernement, nous avons pris un engagement d'utiliser des ressources au-delà du budget de la défense pour se préparer pour l'accueil des alliés. Parce que nous consacrons actuellement 2% du PIB à la défense, mais vu l'obligation de l'article 3 du traité de Washington, nous voulons mettre cet argent dans le développement de notre propre force et de notre capacité de défense. Donc nous avons demandé des ressources supplémentaires au gouvernement. Donc nous avons déjà commencé la construction de 2 baraques pour les alliés. Nous avons déjà construit une baraque pour les Américains qui sont déjà sur place. Notre ministre sera au gouvernement dans les jours à venir pour également présenter d'autres projets comme les terrains d'entraînement également, ou d'entretien des hangars pour l'entretien. Donc il y a tout un travail de préparation qui a déjà commencé et qui va continuer jusqu'à fin 2018. On n'est plus dans un moment où il faut rassurer les gens. C'était après l'agression en Ukraine et l'annexion de la Crimée, où les alliés ont pris des mesures ad hoc pour rassurer les États baltes et la Pologne que nous sommes avec vous. Mais aujourd'hui, il s'agit de mesures de long terme. Il s'agit de renforcer la posture de dissuasion de l'OTAN, parce que depuis l'accession des pays baltes, des États de l'Est, il n'y a pas eu de structure d'OTAN ou de présence des alliés sur ce front-là. Donc en fait, aujourd'hui, nous travaillons sur quelque chose qui aurait dû être fait il y a déjà 10 ans. Donc cette présence est sur le même pied que la présence des alliés en Allemagne ou en Italie. Nous considérons tout cela comme une normalité, comme une amélioration des politiques de défense d'OTAN.
Sur la colline de Tampea, au cœur de la vieille ville de Tallinn, parfaitement restaurée, se dresse le bâtiment du Riigikogu, le Parlement estonien. C'est là que nous allons rencontrer Marko Mikkelson, président de la Commission de la Défense au Parlement estonien. Il va nous parler de la sécurité de l'Estonie et de son intégration européenne.
J'espère vraiment que notre compréhension actuelle et notre expertise sur la situation actuelle de la Russie vont aider nos collègues français à mieux appréhender les défis auxquels nous faisons face. Pour nous qui sommes un petit pays, il est extrêmement important d'avoir des alliés très solides. Et l'engagement de nos alliés, le véritable engagement de nos alliés à défendre chaque centimètre de notre territoire, est la seule chose qui compte. Et actuellement, la seule assurance que nous avons pour cela, c'est l'article 5 du traité de Washington de l'OTAN, un article qui a parfaitement fonctionné depuis plus de 70 ans. Nous sommes donc absolument convaincus que l'OTAN est la meilleure ligue de défense jamais mise sur pied par les nations du monde libre. Nous devons donc la maintenir. Et pour l'Europe, il est essentiel d'avoir des liens transatlantiques très forts. Mais ceci dit, nous avons des problèmes à long terme à nos frontières extérieures. Nous devons donc réfléchir ensemble aux meilleures solutions, mais également à pouvoir monter des missions communes en cas de besoin. Il reste toutefois une question en suspens. En Europe, nous avons la tendance à créer des structures bureaucratiques, comme par exemple les bataillons européens. Nous avons tellement dépensé pour ces bataillons qui n'ont jamais servi à rien, car il n'y avait aucune volonté politique en ce sens. Je serais donc très prudent face aux tentations de créer des alliances uniquement entre quelques pays européens. Je sais qu'actuellement, en Europe de l'Ouest, il existe cette idée de relance de l'Europe par petits cercles. Nous combattrons inlassablement cette tentative de créer de nouvelles divisions, de nouveaux murs entre nous. L'Estonie jouera donc tout son rôle pour trouver la meilleure formule pour un consensus commun. Nous n'allons pas créer des structures doubles. Il nous paraît plus simple de commencer par augmenter les budgets de défense.
Ce n'est pas un projet de 10 ans, c'est un projet de 100 ans pour eux.
Lina Gotme, l'une des trois architectes du Musée National Estonien.
Donc ils sont vraiment dans cette attente en fait, de ce bâtiment qui marque finalement leur indépendance, leur ouverture vers l'étranger, une ouverture aussi vers cette piste qui a tout un symbole et toute une réappropriation. Donc ils sont vraiment très enthousiastes sur ce projet-là et sur cet accueil qu'ils peuvent avoir de tous les Européens ou du monde entier. Après, il y a aussi une dualité de rapport en fait entre ce projet-là qui est très local et le fait que pour eux c'est pas un Milbao, donc c'est pas un bâtiment. Il est étonnant par son site, il est extraordinaire par cet rapport à ce paysage très unique, donc ça attire les gens pour ça. Mais ça reste aussi un musée pour eux pour fabriquer leur culture.
Depuis la restauration de l'indépendance, l'Estonie est le paradis des nouvelles technologies. Estonie, le pays online, zéro papier, une volonté politique expliquée par Anna Piperal, directrice de e-Estonia.
Quand dans les années 90, l'Estonie a retrouvé son indépendance, cela a été très difficile pour nous de restaurer le capitalisme, les infrastructures de services et le gouvernement. Car nous avions de très sérieux manques de moyens, de ressources humaines et de finances, car nous n'avons jamais eu de matières premières en Estonie. Mais heureusement, nous avions des compétences technologiques héritées de l'époque soviétique. Et donc, grâce à une volonté politique, de nouvelles lois ont été votées pour développer l'Internet, les nouvelles technologies et les autoroutes de l'information. Pour nous, c'était une évolution logique d'aller vers la société digitale, car nous n'avions tout simplement pas les moyens financiers d'installer une nouvelle administration physique. Il était donc plus simple de la créer virtuellement. Les citoyens estoniens ont accès à toutes leurs données personnelles détenues par l'État. Ils ont un accès numérique à 99% des services de l'État, et ce depuis n'importe quel ordinateur dans le monde. C'est très pratique et simple d'utilisation. Par exemple, toutes les prescriptions médicales sont numériques, ce qui représente 97% de toutes les ordonnances délivrées en Estonie. Il n'est même pas nécessaire de rencontrer physiquement le médecin, puisqu'il envoie directement votre ordonnance dans n'importe quelle pharmacie du pays, où vous pourrez ensuite aller chercher vos médicaments. Le tout sans le moindre papier. Vous pouvez également utiliser votre signature numérique, ce qui nous permet d'économiser par an une somme équivalente à 2% de notre PIB. On peut l'utiliser par exemple pour signer un contrat de travail, pour tout en fait, vacances, actions en bourse, votes, transactions bancaires, etc. Tout se fait numériquement. Évidemment, cela concerne également les déclarations d'impôts qui prennent 3 minutes, ou tout ce qui concerne la sécurité sociale, le paiement des salaires, ou même déclarer le nom de votre bébé. Et dans le même temps, l'Estonie offre une possibilité intéressante pour les sociétés étrangères, pas uniquement dans les nouvelles technologies d'ailleurs. Il s'agit de l'un de nos nouveaux programmes intitulé la e-résidence. Cela permet à des personnes travaillant dans le business international, qu'ils soient indépendants ou patrons de petites structures, d'utiliser notre système national e-Estonie pour les besoins de leurs entreprises, sans même avoir besoin de venir en Estonie pour obtenir cette carte de e-résidence. Il suffit de créer son entreprise en ligne, de la manager en ligne et d'utiliser en ligne les formulaires estoniens simplifiés tout en restant dans votre pays. En revanche, vous paierez vos impôts dans le pays où vous réalisez vos bénéfices, c'est-à-dire dans votre pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 000 personnes qui ont adhéré à ce programme de e-résidence depuis qu'il a été mis en place il y a 2 ans, ce qui représente plus de 650 sociétés.
Ultra-modernité d'un côté et persistance des difficultés de communication entre Estoniens de souche et russophones de l'autre, Kadri Ibrus, journaliste au grand quotidien estonophone, Eesti Päevaleht.
Oui, je crois qu'il y a des fantômes. Parce qu'il y a un groupe de gens qui veulent justement oublier les choses, ou plutôt, ils souhaitent que On ne parle pas de ces choses très souvent, de cette histoire qui était très négative. Ils préfèrent qu'on regarde le futur tout le temps, de ce qui nous attend. Je vois quand même qu'il y a des effets de notre histoire, de notre époque soviétique. Évidemment, il y a cet effet dans la tête des gens, dans notre psychologie quand même. On ne peut pas éviter ça. Et donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de psychologues, il y a les gens dans les sciences sociales, ils disent qu'on devrait parler beaucoup plus des états traumatiques. Par exemple, comme on parle en allemand de cette histoire très, très ouvertement, on devrait parler beaucoup plus qu'on parle aujourd'hui.
Pourquoi il y a ces blocages? C'est parce que c'est la mentalité estonienne, luthérienne, d'être réservée. C'est parce qu'il y a encore une forte communauté russe. C'est quoi?
Je ne sais pas. Il me semble qu'ils ont peur que quand on parle de choses négatives, c'est l'image d'Estonie qui va être très négative et très triste d'une sorte. Ils veulent montrer à l'extérieur d'Estonie qu'on est très cool, moderne, tout est bien, tout va bien, et montrer ce côté positif. Pour avoir l'euro, par exemple, pour entrer dans l'Europe, vraiment, il fallait montrer que notre économie va très bien. Il fallait montrer tous ces côtés positifs pour l'Europe. Mais moi, je pense qu'il faudrait regarder directement, c'est ce qui se passe ici quand même en Estonie, à l'extérieur de Tallinn, je dirais, comment les gens vivent, à tant quelles conditions, et voilà. En même temps, il y a des gens en Estonie qui pensent qu'on devrait faire justement beaucoup plus de films de cette grande déportation. Donc, oui, il y a ces deux façons de penser de ces sujets, mais il y a un conflit entre ces deux pensées.
Et avec les Russes d'Estonie, c'est terminé les problèmes ou pas? De compréhension sur l'histoire?
Évidemment, c'est très compliqué dans ce sens en Estonie qu'on a des Russes avec leur histoire qui sont venus en Estonie, qui maintenant ils font partie d'Estonie. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a des Russes qui sont déjà intégrés, qui veulent intégrer, mais il y a des Russes qui ne veulent pas intégrer vraiment. C'est compliqué, oui, parce qu'il y a beaucoup de Russes, 30%, ils ne savent pas comment le gouvernement fonctionne et tout ça. Ils ne connaissent pas leurs droits. Par exemple, la langue est toujours très importante. S'ils ne peuvent pas comprendre la langue estonienne, ils ne savent pas leurs droits. Et ça continue, oui, mais il me semble que cette question n'est pas finie.
Environ 30% de la population en Estonie est russophone, pas uniquement russe, mais russophone. La plupart ont pris la nationalité estonienne, mais certains ont conservé la nationalité de leur pays d'origine, et d'autres, enfin, n'ont pas voulu choisir entre leur ancienne nationalité et la nationalité estonienne, et ils ont ce qu'on appelle des passeports gris. On va discuter de cette communauté avec Julia Lukashenkina. Elle est journaliste à la radio nationale estonienne Radio 4, qui est la chaîne russophone.
Ce n'est pas si facile qu'on voudrait. Les gens ne sont pas d'accord d'accepter leur passé. Par exemple, si on prenait ma famille, mes parents sont nés ici, ma maman elle est estonienne. Mon papa, il est russe d'après sa naissance, mais il a reçu la citoyenneté estonienne. Donc, moi, je suis née ici. Mon mari, il est né ici. Il a la même histoire avec ses parents. Mes enfants sont nés ici. Donc, ça fait déjà 1, 2, 3, 4e génération. Malgré tout ça, on nous considère un peu occupants. Et c'est dommage parce que nous, on parle l'estonien. On a un bon travail, on paye des impôts, on n'a pas d'autre patrie, on est né ici. Et oui, c'est dommage. Je crois qu'on a une grande partie de population russophone. Il y a ceux qui ont reçu la citoyenneté estonienne, ceux qui ont la citoyenneté russe, et il y a d'autres qui ont le passeport gris. Le passeport gris, c'est le passeport pour ceux qui n'ont pas encore décidé s'ils veulent être estoniens, ou russes, ou ukrainiens, ou d'autres nationalités. Et donc, ils sont autorisés à vivre en Estonie, à travailler et à tout faire. Mais ils ne peuvent pas voter, par exemple, aux élections. avec les passeports gris, il y a encore une histoire à part parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas choisir parce que c'est pratique. Avec ce passeport, ils peuvent voyager en Europe et en Russie. Donc, pas de visa, c'est libre. Je crois que les gens apprennent, surtout les jeunes, de plus en plus la langue estonienne. Ils essayent de s'intégrer. Vous voyez, moi par exemple, moi je travaille à la radio nationale. Je parle estonien. Chaque jour, je communique avec les représentants du pouvoir, des fonctionnaires, etc. Mes amis ici à la radio sont aussi estonophones. Mais je sais que je ne me sens pas de la même façon que mes amis estoniennes ou estoniens. Il y a de plus en plus de mariages, de plus en plus de familles mixtes et des enfants qui sont bilingues. Bien sûr que les gens s'intègrent, mais peut-être la génération qui est plus âgée, avec cette génération, ce n'est pas si facile qu'avec les gens plus jeunes. C'est vrai qu'il est difficile de se trouver une amie parce que les Estoniens sont plus réservés. C'est leur nature. Avec ça, on ne peut rien faire. Ils ont peut-être peur, ils n'acceptent pas leur passé. Mais ils oublient toujours que la population russophone a aussi souffert pendant les années soviétiques. Si vous posez cette question à n'importe qui, chacun va vous dire que dans ma famille, il y avait des graves problèmes avec l'arrivée du pouvoir soviétique. Des deux côtés, je veux dire, du côté de ma maman et du côté de mon papa, toutes les familles ont souffert. Ont été envoyés en Sibérie, il y a ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, ou ont donné une moitié. Donc il y a vraiment des tragédies derrière chaque famille. Et il ne faut pas se croire victime que vous, mais non, tout le monde a souffert.
Et justement, est-ce que ce musée, finalement, peut servir de réconciliation nationale ?
Peut-être. On attend cet effet qu'il va produire. Mais peut-être ce musée, s'il va vraiment montrer, disons, l'histoire un peu de chacun, peut-être ça va nous dire à nous tout le monde que oui, c'est notre passé, il n'y a rien qu'accepter et de vivre plus loin, de vivre son actuel et son futur.
En fait, un des enjeux de ce projet-là, c'était de répondre à la question d'un côté, qu'est-ce qu'un musée national ?
Lina Gotme, architecte.
Comment créer ou matérialiser l'identité de l'Estonie dans un espace architectural physique, dans un site qui a vécu une histoire assez douloureuse ? C'est une ex-base militaire soviétique, la plus grande dans les pays baltes. On a cette piste d'aviation qui existe. Et donc, comment retransformer finalement l'histoire de l'Estonie et l'histoire de ce site, le régénérer. Donc finalement, l'architecture du projet, elle a ce relais finalement. Ce n'est pas une boîte qui s'installe indifféremment dans son site, mais elle se lie à l'histoire du site, elle retransforme complètement l'histoire du site et lui donne un autre futur. Le musée, il est en prolongation de cette piste d'aviation, recrée de cette piste d'aviation aussi un espace public ouvert dans lequel la notion d'identité nationale ou bien d'espace national fermé s'ouvre vers un infini, tel qu'on a décrit, parce que c'est un kilomètre d'espace ouvert à tous les Estoniens où ils vont écrire leurs histoires. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui a créé finalement une controverse à l'Estonie. Qu'est-ce que notre identité, mais en même temps, il y a toute une opportunité aussi de transformer, de régénérer urbainement un site.
Ce musée a donc également ses détracteurs. C'est le cas du politologue, journaliste et polémiste Ato Lobiakas.
La véritable idée de ce musée est idéologique. Il s'agit de déterminer un passé officiel pour l'Estonie afin de l'inscrire dans le présent, ce qui, de mon point de vue, est une idée ridicule. L'argent et l'énergie politique investis dans ce musée auraient pu l'être dans n'importe quel autre secteur qui en a besoin. Il y a tellement de dossiers importants qui manquent de financement sans avoir besoin d'inventer une histoire. Je ne pense pas que cela devrait être la première priorité de l'Estonie. Mais d'un autre côté, c'est compréhensible. L'Estonie ne s'est retrouvée indépendante que pour une courte période au XXe siècle et n'a retrouvé cette indépendance qu'en 1991. On souhaite donc se rehausser par rapport aux autres nations, aux pays de l'Ouest, afin d'être considéré comme similaire, comme étant aussi important qu'eux. Il nous faut donc une histoire. Et comme le puzzle de cette histoire nationale n'a pas été encore assemblé, il nous faut ce musée. Mais le problème principal est qu'avec cette nécessité idéologique d'avoir une histoire pour l'Estonie, énormément d'argent a été enseveli dans ce projet. Et donc maintenant, nous avons ce bâtiment de type âge spatial, qui, à mon avis, va être un désastre en termes de rentabilité.
Mais peut-être que ce musée va unir le pays.
Sincèrement, je pense que c'est un projet politique qui remonte à une autre époque, il y a 20 ans. À cette époque, il y avait une demande de l'opinion pour cela, mais désormais, ce projet est poussé par un parti politique et par des dirigeants de ce parti de droite. Honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui une demande de l'opinion en faveur de ce musée. Mais l'Estonie n'a pas le choix et devra faire avec du mieux possible.
Cependant, pour de nombreux Estoniens, ce musée est une chance, celle de tourner la page d'un passé très douloureux et de réunir tous les Estoniens, quelles que soient leurs origines. Marge Kasper, professeur de langue et culture à l'université de Tartu.
C'est justement ce que ce musée va faire, mettre en valeur les différents discours qui ont traversé l'histoire du peuple estonien, leur vie. Le musée ne va pas exposer une vérité certaine, mais ces différentes manières de voir, c'est un peu chacun qui écrit l'histoire. De toute façon, ça renvoie à une polyphonie des avis que chacun voit peut-être un peu différemment, mais c'est ça qui constitue l'histoire.
L'Estonie a 25 ans d'indépendance, c'est-à-dire que vos étudiants n'ont pas connu l'Union soviétique.
Je crois que pour eux, c'est pas tellement un traumatisme, mais c'est une histoire passée, bizarre, parce qu'ils arrivent bien sûr à pas imaginer qu'il y avait des magasins où il n'y avait rien à vendre, rien à acheter. Ça, le musée expose aussi. Comment ça a été la vie quotidienne à l'époque soviétique.
Vous pensez que ce musée va être un succès?
Oui, sûrement. Je crois que c'est aussi un petit défi pour le musée. Pour le peuple estonien, je crois que le musée passe toujours un peu pour un musée conservateur de costume national, des gants bariolés avec des motifs ethniques. Tout ça, c'est un peu l'image du musée que comptent les Estoniens. Et c'est ça qui est un peu à vaincre. Le musée travaille beaucoup, dans ce sens que pour exposer cette partie importante aussi, mais tout le travail avec la vie quotidienne de différentes époques, comment les objets participent aux différents processus, c'est ça qu'ils essaient de mettre. Et je pense que si les gens vont le découvrir, ils seront vraiment contents.
Vous pensez que les Estoniens d'origine russe vont venir aussi?
Oui, sûrement. Ils n'ont pas de raison de ne pas venir. Enfin, je sais qu'il y a des expositions, il y a par exemple une dame russe qui était venue en Estonie à l'époque soviétique. Elle n'a rien appris de l'estonien, je crois, quelques mots. Mais c'est raconté à travers ces petits objets qu'elle a amenés ici et puis après elle est repartie. Mais en partant en Russie, elle l'a donné un samovar, je crois, au musée.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Estonie, un musée pour guérir le passé. C'est un reportage signé Bruno Caden. Nous sommes toujours en compagnie du géographe Nicolas Eskache et avec l'enseignante à l'INALCO, Katerina Keza. Vous êtes aussi spécialiste des espaces baltes. On va d'abord avec vous peut-être commencer par définir finalement les Estoniens. On a bien compris qu'ils se posent des questions sur leur identité. C'est un peuple finno-ougrien. Ça veut dire qu'ils ont une langue vraiment à part, qui n'est même pas proche des autres langues baltes.
Oui, c'est ça, effectivement. L'Estonien appartient à la branche finno-ougrienne. Et c'est quelque chose que les Estoniens aiment bien mettre en valeur lorsque on tente de les identifier avec les autres pays baltes. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait qu'ils se retrouvent pas loin de la Finlande. Ils ont une culture protestante, ils ont peut-être beaucoup plus d'échanges avec la Suède et le Finlande, avec la Finlande, que les autres pays baltes. Ils ont été dans une position différente déjà tout au long de, à la fin des années 80. Donc voilà, ils aiment bien se positionner de cette manière-là.
Ouais. Nicolas Eskach, vous qui êtes géographe, on dit pays de l'Est à propos de ce pays, ou pays balte, et finalement c'est impropre ou c'est juste ?
Non, je crois que l'Estonie est au centre de plusieurs cercles d'influence. Je crois que on a vu dans le reportage tout à l'heure que la mémoire en Estonie était quelque chose de très complexe. Donc évidemment, toutes ces influences jouent. Quand on voit le centre de Tallinn qui a été complètement patrimonialisé, on reconnaît l'influence de la Hanse, l'influence allemande. Et puis évidemment, il y a l'influence suédoise. Il y a eu pendant très très longtemps une communauté suédophone en Estonie. Et puis cette mémoire soviétique dont on ne sait pas quoi faire. Donc il y a toutes ces influences-là. Et puis les liens, ils sont multiples. Katerina parlait des liens avec la Finlande. Il y a un projet, par exemple, de tunnel entre Tallinn et Helsinki. Donc des liens qui sont très forts, avec également des projets d'aménagement au niveau du golfe de Finlande. Aménagement tout autour du golfe et aménagement également des espaces maritimes du golfe. Et puis des liens toujours de jumelage également avec l'Est, des échanges entre la ville de Tallinn et la ville de Saint-Pétersbourg, qui est tout proche. Et la ville de Saint-Pétersbourg, c'est 5 millions d'habitants, donc c'est une énorme ville. Donc voilà, des échanges qui sont multiples, et je pense pas qu'aucun des échanges ne soit dominant, c'est vraiment une influence croisée.
Question de Bruno Caden.
Oui, déjà juste un petit mot avant la question. Il y avait même à un moment un projet de créer une seule ville entre Tallinn et Helsinki, et qui s'appellerait Talsinki, où on pourrait mélanger et que ça coûte moins cher pour tous les services sociaux en particulier. C'est vrai que l'influence étrangère est très importante dans ce pays. Vous l'avez dit, il y a eu les Suédois, il y a eu les Polonais, il y a eu les Allemands, il y a eu les Russes. Je crois même que Tallinn signifie la ville des Danois.
Oui, c'est ça.
Puisque ça avait été fondé par les Danois. Comment les Estoniens, géographiquement, justement, se situent dans ces confluences qui sont vraiment très, très importantes ?
Alors, les Estoniens, vous l'avez rappelé, ça veut pas dire grand-chose. Tout dépend lesquels. Et même quand on parle de catégorie d'Estoniens ou de russophones, ça veut pas non plus dire grand-chose. Il y a vraiment un aspect composite et des Estoniens et des russophones. Ceci dit, au niveau du langage d'État, il y a eu une volonté très forte de se rapprocher de la sphère scandinave, notamment avec un projet...
Depuis l'indépendance, vous voulez dire, depuis 91.
Oui, parce que les Finlandais ont beaucoup aidé, notamment avec des investissements de PME finlandaises. Et il y a eu un projet à un moment également de mettre une croix scandinave, je crois, sur le drapeau. Donc il y a vraiment cette volonté de se rapprocher de la Scandinavie avec une modernité très forte. Vous disiez tout à l'heure que l'Estonie était très puissante dans le domaine des télécommunications, des nouvelles technologies. C'est notamment le pays de Skype. Donc, et quand on est dans le centre de Tallinn, on constate, vous avez dû le constater, qu'on peut se connecter partout et le Wi-Fi est totalement gratuit et disponible dans le centre de Tallinn. Donc il y a vraiment cette volonté de se rapprocher économiquement de la Scandinavie.
Et Katerina Kesa, par rapport à la Russie quand même, dont l'ombre plane plus que d'autres pays riverains, alors là c'est pas une ombre qui a l'air très, très agréable, hein. Et la question de la déportation dont on parlait un peu dans le reportage, est-ce que c'est vraiment une question qui est encore très très présente même dans les familles? Est-ce qu'on parle de cet épisode dramatique qui remonte à 1941.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est souvent évoqué lorsqu'on parle des Russes. Et effectivement, lorsqu'on a vu pendant la guerre russo-géorgienne, le conflit russo-géorgien, le conflit avec l'Ukraine, effectivement, c'est des choses qui reviennent, bien sûr. Et justement, cette difficulté de tourner la page et de repenser à autre chose, de tourner vers l'avenir. Donc je dirais que l'Estonie est à la fois vraiment tiraillée entre cette volonté de tourner vers l'avenir, donc de soigner son image, de montrer que c'est un pays qui est très développé, qui va très bien économiquement et financièrement, et aussi d'un autre côté ce pays qui a le passé qui pèse.
Mais vous dites on en parle, mais on en parle comment? Par exemple, on en parle dans les cours d'histoire en permanence, on en parle au sein des familles, on se raconte qu'on a un grand-père ou un
qui a été déportée ?
Oui, alors dans chaque famille, c'est pas le cas, bien sûr, mais effectivement, les familles qui ont été touchées, ce sont des familles qui ont du mal à accepter qu'on puisse effectivement s'entendre avec la Russie. Et puis voilà, pour eux, effectivement, la Russie, c'est représentant de l'URSS. Et voilà. Et la Russie, pour eux, c'est aussi les Russes. Donc, alors que là, il faudrait distinguer parce que toute la population ne pense pas. Évidemment, pas de la même manière. Il y a des populations qui comprennent très bien que les Russes d'Estonie et les Russes de Russie ne représentent pas la Russie ni le pouvoir. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une vision unanime par la population.
Bruno Cadet.
Sur la mémoire et la culture, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit en Estonie qu'il y a des gens qui disent non, mais on essaye d'oublier, d'avancer, on va vers de l'avant et justement la nouvelle technologie. Mais d'un autre côté, si on prend les deux. On ne parle pas souvent culturellement de l'Estonie en Occident ou ailleurs dans le monde, mais les deux choses dont on a parlé qui venaient pratiquement d'Estonie, ça a été les livres de Sophie Oksanen, qui est finlandaise mais d'une mère estonienne, qui parle des déportations, et c'est le film de Martti Helde, Crossmin, qui est paru en 2004, qui a été au cinéma en 2014, qui est un film extraordinaire en noir et blanc, souvent figé, sur les déportations. Donc en fait, même si les Estoniens disent on ne veut pas en parler, les deux choses dont on parle à l'étranger culturellement, c'est ça.
Nicolas Escache, là-dessus.
Oui, il y a vraiment, je pense, un rapport au passé assez différent de chez nous. Il y a un poème de Thomas Venclova, qui est lituanien, qui m'est revenu en tête tout à l'heure. Il disait « Le passé ne se perd jamais dans le passé est vivant, il s'immisce dans le présent ». Il y a vraiment cette idée de devoir aller s'inspirer du passé pour aussi construire le présent. Alors c'est peut-être aussi le fait qu'effectivement que c'est un petit pays en termes de superficie, donc il y a un complexe géographique et donc la nécessité de construire aussi une histoire, se construire une nation. Et puis il y a l'idée de transmission aussi. Dans le reportage, on voyait tout le temps des personnes dire il faut éduquer les jeunes, il faut transmettre. Il y a vraiment cette idée qu'une nouvelle génération est arrivée et cette nouvelle génération ne connaît pas, n'a pas connu l'époque soviétique. Donc il faut transmettre cette histoire à une génération qui n'a pas connu cette histoire complexe.
Mais alors qui sont les russophones qui semblent poser problème aujourd'hui à quelques Estoniens? On dit qu'ils forment 30% de la population à peu près, 29%, mais d'où viennent-ils vraiment?
Alors, il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des familles qui sont là depuis très longtemps. Il y a des familles qui sont arrivées de toutes les régions à l'époque soviétique.
Il faut même peut-être rappeler que la Russie était très présente en Estonie bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je crois qu'elle a dominé l'Estonie jusqu'au début du XXe siècle, non ?
L'Estonie a été indépendante deux fois. Elle a été indépendante une première fois suite à la guerre d'indépendance en 1918-1920. Et puis une seconde fois suite à la chute de l'URSS. Donc il y a vraiment eu deux indépendances. Et la plupart de ces russophones aujourd'hui, ils sont soit à Tallinn ou autour de Tallinn, soit dans les régions du nord-est, notamment la région de Narva ou de Sillamäe, où là on a carrément une inversion, c'est-à-dire qu'on a une majorité écrasante de russophones et très peu d'estoniens. On a par exemple 5% d'Estoniens à Narva. Donc on a vraiment des villes russes en Estonie. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, il y a un spécialiste de l'Estonie, Vincent Dautancourt, qui écrivait sur Narva, il expliquait qu'il y avait une différence totale entre le paysage visuel et le paysage sonore. C'est-à-dire qu'on voyait des panneaux en estonien partout et on entendait parler russe partout. Donc il y a cette espèce de schizophrénie dans ces villes de l'Est qui est assez importante.
Katharina Keza, est-ce que en Estonie, on commence à parler d'éducation et de se dire que finalement, c'est peut-être par l'école qu'on va réussir à unifier le pays? On en est où de la création? Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que ce n'est pas comme en France. Il n'y a pas une école française où tout le monde parle français. Il y a des écoles russophones et des écoles esténophones. Où en est-on là?
Oui, il y a toujours des écoles russophones, effectivement. Je pense que c'était en 2007, si je ne me trompe pas. À partir de 2007, les écoles russophones ont dû mettre en place une éducation en langue estonienne. Donc 60% des cours devaient être enseignés en estonien. Or, effectivement, les premières années, c'était plutôt un échec, je dirais, parce que les professeurs n'étaient pas eux-mêmes formés pour étudier ou enseigner physique ou histoire en estonien. Donc je pense que les premières générations ou les premières années, c'était plutôt un échec. Et puis vous imaginez les russophones du coup qui terminaient le lycée, qui devaient rentrer à l'université, où effectivement la connaissance de la langue estonienne était très importante. Voilà, le concours à l'université, c'était pas évident non plus. Donc je pense que quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus de russophones, des jeunes, ils parlent estonien. Et je dirais même que ce qui est très intéressant en Estonie, c'est que finalement tout le monde parle anglais, vous savez, Donc, et aussi bien les jeunes russes que les jeunes estoniens parlent anglais, et parfois la lingua franca, c'est l'anglais, quoi.
Oui. Alors, on va peut-être parler un peu politique quand même, parce que demain, en plus, il y a des élections, enfin, une tentative d'élire le président estonien. Mais je voulais commencer juste par la frange russe, parce qu'il y a un parti politique qui est, dit-on, qui représente un peu plus les intérêts peut-être de la Russie. Le paysage est extrêmement fragmenté quand même en Estonie. Non ?
Qui veut répondre ? Oui, pardon, effectivement, Katharina. Fragmenté. On a d'un côté, effectivement, les réformistes et le parti pro-nationaliste, si on peut dire ça. On a aussi un parti qui a été créé il y a 2 ans, voilà, vraiment, vraiment nationaliste, voilà.
Après, eurosceptique, un peu
eurosceptique, anti-immigration, et puis voilà, anti-russe, bien sûr. Et puis, de notre côté, effectivement, on a des sociaux-démocrates qui sont progressistes, voilà. Et puis aussi, il y a effectivement Keskerakond, c'est un parti centriste, des centristes, parti du centre, qui a été dirigé pendant très longtemps par quelqu'un, voilà, une figure très critiquée en Estonie et connue comme quelqu'un de très corrompu, mais c'est la même personne qui effectivement a été le leader du Front Populaire estonien, il a créé le Front Populaire en 1988, donc c'est quand même une figure emblématique, bien que critiquée et corrompue, mais effectivement c'est le parti qui jusqu'à présent a représenté les russophones, en tout cas les russophones se retrouvent. Maintenant, même ce parti est en train de changer, donc c'est plus la même chose.
Mais Bruno,
est-ce qu'on pourrait, parce que bon, on l'a dit, il y a l'élection présidentielle. Alors l'élection présidentielle, c'est les députés qui élisent. Par 2 fois, le Parlement n'est pas parvenu à élire le président. Donc demain, ça va être...
Quatrième tour.
Fait par des élus plus le Parlement. Et certaines personnes en Estonie me disaient, mais on ferait mieux de voter directement au suffrage universel pour le président. Comme ça, ça mettrait de côté tous ces appareils politiques et ça permettrait peut-être même d'élire quelqu'un qui parle russe, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Effectivement, aujourd'hui, le paysage politique et le paysage médiatique est dominé par ces élections qui n'en finissent pas. Et puis, vraiment, les Estoniens en ont vraiment assez de ces débats qui vraiment sont un conflit, hein, finalement, entre les personnes. Je dirais, cela dit, que par rapport au fait, ce que vous avez dit, s'il faudrait que les Estoniens eux-mêmes élisent le président, oui, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faudrait aussi peut-être changer la constitution. Parce que selon la constitution estonienne, effectivement, le président a très très peu de pouvoir. Il est là pour représenter le pays. Voilà. Même effectivement avec Ilves, on a vu que voilà, il était très très efficace, mais.
Et on a compris que le parti du centre, bien qu'il soit assez important, ne pourrait jamais sans doute donner un président ou un premier ministre. On va parler un peu de l'OTAN quand même, peut-être avec vous, Nicolas Escache, parce que c'est vrai que cette arrivée des militaires, disons, occidentaux, 2017. En 2017 et en particulier de Français, ça fait beaucoup parler en Estonie. C'est essentiel pour eux, à nouveau, de se protéger par rapport aux Russes.
Oui, alors il y a effectivement cette protection de l'article 5 de l'OTAN que vous avez cité dans le reportage, qui, à mon avis, empêche le fait qu'on assiste à une nouvelle Crimée. Mais se met en place dans cette zone, on voit bien une sorte de guerre hybride, c'est-à-dire des intimidations, des attaques, des cyberattaques, des sous-marins russes qui viennent au bord du territoire estonien ou letton. Et puis de l'autre côté, effectivement, des exercices de l'OTAN, par exemple Baltops, qui est un exercice de l'OTAN en mer Baltique. Et donc on a véritablement un front de guerre hybride fait d'intimidation qui se met en place.
Alors on avait effectivement aussi envie de vous poser cette question, Katharina. Est-ce que ces militaires qui vont arriver jouent un rôle de rempart et la population en a-t-elle véritablement besoin et envie ?
Les soldats de l'OTAN sont déjà présents en Estonie, dans le nord-est du pays. Effectivement, ils sont en rotation. Et ce qu'ils ont vraiment besoin, ben ça c'est une question. Vous avez vu dans le reportage, effectivement, un certain nombre de personnes qui sont manifestées, bah, en tout cas concernant les hommes politiques, c'était des personnes du parti pro-patria. Voilà, donc ils ont aussi, pour eux, effectivement, on a besoin d'augmenter les dépenses militaires. La Russie a toujours été une menace, et puis effectivement, pour eux, c'est aussi une arme pendant les élections. Toutes les parties ne pensent pas de la même manière, mais c'est vrai que C'est une partie, oui, qui est importante.
Alors, on avait gardé une mini-anecdote sur le drapeau, mais je ne sais pas si on a le temps de la raconter en 10 secondes.
En 10 secondes, pendant toute l'occupation soviétique, le tout premier drapeau estonien, qui datait du 19e siècle et qui avait été fait par des étudiants, avait été caché. Et le KGB n'est jamais parvenu à le trouver. Et il n'y avait que 3 personnes qui savaient où il était. Et ce drapeau vient d'être amené au nouveau musée national
vous
estonien.
Vous avez pu le voir, Bruno Kaden.
Et j'étais au moment où le musée...
Donc, il faudra aller visiter ce musée à Tartu. Merci beaucoup à nos deux invités d'avoir participé à ce magazine de la rédaction, Katerina Keza et Nicolas Escache. Magazine signé Bruno Kaden, réalisé par Annie Brault à la technique ce soir, Dali Yaha. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission, la podcaster, la commenter sur notre site franceculture.fr. Depuis la diffusion de ce magazine, le 23 septembre 2016, la situation a un peu évolué en Estonie. Le Parlement estonien a réussi à élire, c'était le lundi 3 octobre dernier, la présidente de la République. Elle s'appelle Kersti Kaljulaid. C'est une ancienne membre de la Cour des comptes européenne, première femme présidente. Et puis un premier ministre très jeune, lui aussi, a été nommé, 38 ans, Jüri Ratas. Et puis il y a eu un peu de nouveau sur le front de l'OTAN et des relations avec la Russie. Bonsoir. Eric Biegala.
Bonsoir Tara.
Vous êtes le chef du service étranger de France Culture. Alors c'est en Estonie d'ailleurs que l'OTAN a installé, Eric, l'un de ses quartiers généraux, plus précisément son centre de cyberdéfense, et ce n'est pas un hasard.
Oui, parce que l'Estonie, il faut le rappeler, c'est véritablement le pays qui est aux avant-postes face à la Russie, et ce n'est pas une figure de style. L'Estonie est le seul pays de l'OTAN, avec la Lituanie, à disposer d'une frontière commune avec la Russie, une frontière où tout ne se passe pas toujours dans la soie. Et l'Estonie, d'ailleurs, a été la toute première victime d'une cyberattaque massive en provenance de la Russie. C'était il y a 10 ans, en 2007. Le système bancaire du pays, les sites gouvernementaux, notamment ceux des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, les sites d'information, ceux des journaux, tous s'étaient retrouvés complètement paralysés, bombardés par des millions de spams et autres manœuvres qu'on appelle déni de distribution de services. Or, on l'a entendu dans le reportage de Bruno, l'Estonie est un pays qui s'est complètement organisé autour de l'Internet, où la démarche administrative, par exemple, quelle qu'elle soit, un public ou privé, est informatisée. Résultat, l'attaque massive avait pour ainsi dire paralysé tout le pays. Un véritable acte de guerre. Les serveurs responsables de ces attaques étaient majoritairement situés en Russie et c'est, semble-t-il, le simple déplacement d'une statue à Tallinn, la capitale estonienne, une statue commémorant le glorieux combat soviétique contre les nazis qui avait déclenché l'ire de Moscou et l'attaque russe.
Alors, Eric, c'est donc à partir de l'Estonie que l'OTAN a imaginé ses contre-attaques cyber.
Oui, la cyberdéfense de l'OTAN, qui est l'un des rares moyens communs de l'Alliance Atlantique, est mise en œuvre depuis Tallinn, la capitale estonienne, et depuis Tartu, pas très loin en fait du musée national estonien, vous trouverez à Tartu le Cyber Range de l'OTAN, lieu où se déroulent des sortes de manœuvres cybernétiques, des exercices réalistes de cyberdéfense, et où les 28 pays dépêchent leurs spécialistes tous les ans. À Tallinn, c'est un centre d'excellence qui est installé en charge de la recherche et de la formation des différentes forces armées de l'Alliance. Il s'agit d'abord et avant tout pour l'OTAN, c'est sa première priorité, de protéger ses propres systèmes informatiques et de communication contre des attaques. Et des attaques, il y en a pratiquement tous les jours. Au total, pour l'année 2016, l'OTAN a recensé une moyenne de 500 incidents par mois, une quinzaine tous les jours, visant l'un ou l'autre de ses propres systèmes. La grande majorité de ces tentatives d'intrusion, attaques en bonne ou due forme, ou tentatives de piratage ou de brouillage, sont traitées par des automatismes mis au point par les chercheurs de l'Alliance Atlantique. Et c'est là qu'on touche peut-être à la limite du système. Les actions que peuvent initier les soldats de l'OTAN en matière de cyberdéfense sont strictement défensives. Il s'agit bien de se défendre, de bloquer les logiciels malveillants, les tentatives de piratage. La cyberdéfense de l'OTAN n'a pas de capacité offensive, alors que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, la meilleure défense, c'est souvent l'attaque.
Merci Eric Biegala. Vous pouvez retrouver ce magazine de la rédaction de Bruno Kaden sur notre site franceculture.fr.